Alors, dernier, j'allais dire dernier dimanche de l'année, mais c'est pas vrai. Hein? Dernier samedi. Vous êtes tout beau. Je pense que j'ai jamais vu autant de personnes si bien habillées à un culte. Comme on dirait, on est tous sur notre 31. Alors, j'ai écouté la radio la semaine passée et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a un animateur qui a dit... Il discutait, voilà, il parlait de l'année qui s'est écoulée. Et il lance cette phrase pour conclure son speech. Il dit « Nous ne regretterons pas l'année 2022 ». Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai plus rien entendu d'autre. « Nous ne regretterons pas l'année 2022 ». Et puis ça m'a amené à la réflexion et je me suis dit « C'est vrai qu'autour de nous, il y a plus de pessimisme que d'optimisme ». On veut passer le plus vite possible à l'année suivante. Parce que l'année précédente, c'est pas passé pour le mieux. Et on sait très bien qu'il y a des difficultés. Mais finalement, tout ce qu'on entend, il y a une sorte d'atmosphère, de pessimisme, beaucoup de déclarations négatives. Il y a un état d'esprit ambiant en France qui est pas top top. Alors vous rajoutez ça qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde, bah les Français sont pas au top. Heureusement qu'on n'a pas perdu contre les Belges. Voilà. Et quand on écoute tout ça, eh bien, on a l'impression que rien ne va bien, il n'y a rien de bon, et puis tout va mal. Que tout est difficile, insupportable. Et puis finalement, quand on écoute certaines personnes, on se dit, à quoi bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous avez les mêmes personnes que moi autour de vous ou il n'y a que chez moi qui a les pessimistes? Non? Au travail, les collègues, il n'y a jamais rien qui va. Et vous rajoutez à ça la culture française qui aime bien râler. On aime bien lever des panneaux pour dire ce qui ne va pas. Et finalement, on entend souvent ce qui ne va pas. Mais on a du mal à valoriser tout ce qui est positif dans notre pays. Et nous, en tant que chrétiens, comment on doit se positionner par rapport à cette mentalité-là? Eh bien, c'est tout simplement être différent et arriver à valoriser ce qui est positif. Moi, je considère que je suis dans un beau pays, qu'on est dans un pays où on peut entreprendre et que c'est pas forcément tout ira mal. J'étais chez le coiffeur, j'en parlais avec mes beaux-frères et mes sœurs à Noël. Et chez le coiffeur, il y avait le coiffeur qui était indépendant, moi qui suis indépendant, et puis une ancienne boulangère. Et ils discutaient, ils disaient « Mais aujourd'hui, il faut complètement être fou pour se mettre à son compte ». Et ils me regardaient en rigolant « Bon, arrêtez, on va pas le déprimer, c'est un jeune ». Mais je dis « Vous inquiétez pas, ça va, je rigole, tout va bien, je m'inquiète pas pour l'avenir ». Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir? À mon avis, on n'a pas besoin forcément de s'inquiéter pour l'avenir. Mais il ne faut pas non plus faire l'autruche et vous savez, être dans l'état d'esprit du positivisme à outrance et éviter et détourner le regard vers ce qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais nous, en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on peut se positionner? Et quand je réfléchissais à ça, je me suis dit, eh bien, j'ai pensé tout de suite à l'Église primitive. L'Église primitive, Jésus est arrivé dans un contexte quand même qui je considère être quand même un petit peu plus dur que le nôtre aujourd'hui. Après, vous interprétez ça comme vous voulez, mais c'était compliqué. Jésus arrive et c'était pas le top. Mais durant les trois premiers siècles, il faut savoir que l'Église chrétienne a été persécutée et persécutée et persécutée et persécutée les trois premiers siècles après Jésus. On tuait les chrétiens, on les enfermait, on les emprisonnait, on leur voulait pas que du bien. Et pourtant, on se pose la question, dans ce contexte-là, comment est-ce que le christianisme a pu croître? Fallait être fou pour vouloir être chrétien. Tu savais ce qui t'attendait. Te baptiser au nom de Jésus. Oh là là, tu jouais ta vie à ce moment-là. C'était pas de la rigolade. Aujourd'hui, on te baptise ici, on fait la fête, on mange des toasts. À l'époque, on te baptisait, on se cachait. C'est pas la même ambiance. Est-ce que tu arrives à te projeter dans ces situations-là? Est-ce que tu arrives à te projeter dans cette pièce où les chrétiens ont commencé à prier pour Pierre parce qu'il était enfermé et on dit qu'il persévérait dans la prière et que voilà, il se passait des miracles, des choses incroyables, mais cette église qui se cachait. C'était compliqué. On critiquait les chrétiens, on les tuait, on les emprisonnait. C'était vraiment compliqué. Avant, à l'époque, ta croyance t'était assignée dès ta naissance. Si tu naissais dans telle ou telle tribu, tu croyais dans les dieux dans lesquels ta tribu croyait. Tu ne choisissais pas finalement ta croyance, forcément. On t'assignait ce en quoi tu devais croire. Et là, les chrétiens, ils commencent à bouleverser le monde parce que là, il y a des gens de toute race, de toute ethnie, qui commencent à s'approcher de ces fous-là, qui vivent ensemble, qui partagent tout, qui, dans une époque où l'honneur était... il fallait garder son honneur, où la honte était grave, et si tu avais subi la honte, eh bien, tu courais vers la vengeance. La vengeance, c'était normal, il fallait se venger. Eh bien, les chrétiens choisissaient de pardonner, choisissaient la réconciliation, choisissaient d'aimer, choisissaient de recueillir les pauvres, les gens qui étaient mis de côté. C'était quand même une époque compliquée. Et pourtant... Alors, comment réagir pour nous aujourd'hui? L'Église primitive, ce qu'on peut tirer d'eux, la culture n'est plus la même aujourd'hui. Mais quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'ils vivaient comme si Jésus revenait demain. Et je vais te poser cette question, est-ce que tu vis comme si Jésus revenait demain? Moi, si je regarde mon agenda, Jésus ne revient pas demain, hein. Quand je réfléchis à tout ce que j'aimerais faire, Jésus, il faut qu'il revienne le plus tard possible. Ça sous-entend quelque part qu'on se sent bien. On n'est pas oppressé. On n'a pas l'impression que vite, 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 Jésus revient vite parce que là, c'est insupportable. C'est qu'il y a quand même de bonnes choses. Mais l'Église primitive vivait comme si Jésus revenait demain. Waouh! Alors Jésus, on a constaté, on a beaucoup de chrétiens qui veulent changer la société en prônant des valeurs, et c'est bien, nos valeurs doivent impacter la société, mais Jésus n'est pas venu pour changer la société. Il a dit, moi je suis d'en haut, voilà, je m'occupe des affaires de mon Père, et puis je vais vivre comme je suis, et vous voyez Jésus qui passait partout, il guérissait les gens, il donnait en abondance, il ne regardait pas si tu croyais en telle chose ou telle chose, voilà, il s'approchait de toi et puis il te bénissait, même si tu reconnaissais qu'il était Dieu ou pas, c'était pas grave, il faisait ce qu'il avait à faire, il donnait sans attendre en retour. Jésus a fait que ça, donner. Jésus n'est pas venu pour changer notre société, mais pour donner sa vie. Il est venu donner sa vie pour toi, pour moi, on l'a reçu. Si on est là ce soir, c'est parce qu'un jour on a donné notre vie à Jésus. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est né en nous. Et on peut se retrouver autour d'une table avec différentes couleurs, une histoire différente, une éducation différente, et pourtant, on est autour du même Sauveur. 1 Jean, chapitre 2, versets 5 et 6. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaîtrons que nous sommes en lui. Alors, ma version, c'est « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. » Ah, pardon. J'avais pas vu la suite. « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Alors, quelle est notre position aujourd'hui face à tout ce qu'on entend? Eh bien, ça reste la même. C'est vivre comme Jésus a lui-même vécu. Alors maintenant, tu te poses la question, est-ce que je vis comme Jésus a lui-même vécu? Quels sont mes centres d'intérêt? Quels sont mes combats? Quels sont mes objectifs? Vers quoi je me porte? Où est-ce que mon attention est attirée? Est-ce que je vis comme Jésus a lui-même vécu? 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 à 7. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Je m'arrête là. Si tu m'avais annoncé l'évangile religieusement, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Moi, l'évangile religieux ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire, je suis jeune, j'ai de l'ambition, je veux réaliser des choses dans ma vie. Me contraindre à beaucoup de choses, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que les jeunes, il y a une ribambelle de jeunes là, est-ce que ça vous intéresse de vous astreindre à certaines prières, à certains cultes, à certains rites? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est attirant? Pas moi qui le dis. Donc j'étais jeune et ça ne m'intéressait pas. J'avais beau avoir des parents qui aimaient le Seigneur, venir à l'église tous les dimanches pour faire Alléluia, Hosanna. Tant qu'il n'y avait pas cette révélation dans mon cœur, ça ne m'intéressait pas. Alors comment on reconnaît qu'ils sont des leurs? Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. En accueillant la parole avec quoi? Au milieu de quoi? Au milieu de grandes difficultés. Il y a toujours eu des difficultés. Tu auras des difficultés. L'année prochaine sera remplie de difficultés. Oh là là, c'est pas un message encourageant ça ce soir. La réalité, c'est qu'il y a des difficultés. Rien qu'à les travailler, c'est difficile. Se lever le matin, pour moi, c'est difficile. Ma journée commence difficilement. Chanel est obligée de me mettre un coup de pied. Je vous l'ai déjà raconté, ça. C'est dur pour moi. Je suis pas le genre de personne qui sort de son lit et je suis frais. Je suis le genre de personne qui a besoin d'un petit peu de temps. M'enrouler dans la couette, revenir dans le chaud, sortir la jambe doucement à l'orteil. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Ah, merci, merci. Je suis pas tout seul. Sauf que je vis avec une femme qui, elle, le réveil sonne, chouchou, elle part. Dieu m'a confronté à mon opposé, tu comprends? Elle me dit, mais je comprends pas, et ça fait déjà 12 ans, et ça fait 12 ans qu'elle comprend pas. Et moi, ça fait 12 ans que je comprends pas comment elle fonctionne. Alors, on s'affûte, hein, ensemble. Au milieu de grandes difficultés. Avec la joie du Saint-Esprit. J'aimerais t'encourager pour l'année 2023 à être rempli de la joie du Saint-Esprit. À être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la vie que Christ donne en toi et qui boue. Malgré les conflits, les difficultés, les tragédies, eh bien la joie du Saint-Esprit peut demeurer au milieu de ton couple, dans ta vie et au sein de ta famille. C'est dubitatif. Moi, je suis convaincu, hein, mais on va encore le répéter. Peut-être tu seras convaincu à la fin, non? La joie du Saint-Esprit! Oh! Oh, c'est dur ce soir, ils ont envie de faire la fête. C'est après la fête. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Le Seigneur t'invite à être son imitateur en 2023 et être un modèle pour ceux de Waterloo, de Lille, de Wascal, de Wattigny, de LM, à être un modèle. Est-ce que cette année, si je me retourne sur... Parce que ce qui est passé est passé, hein. C'est passé tout ce qui s'est passé en 2022. Mais est-ce que si je me retourne, je peux dire « j'ai été un modèle » ? Est-ce que si je me retourne, je peux dire « on peut m'imiter » ? Ou est-ce que tu te retournes vers certaines de tes actions et tu dis ça « non, pancarte, stop, m'imite pas s'il te plaît » parce que c'est vraiment pas correct. Moi, il y a pas mal d'actions que j'ai eues en 2022. Je vais mettre la pancarte « suis-moi pas s'il te plaît, c'est pas le bon chemin ». Par contre, il y a certaines choses, je suis assez content. Je me dis, c'est bon, tu peux me copier. Jésus, j'ai essayé de faire comme toi dans telle situation. C'était top. Dans celle-ci, je me suis un peu foiré. Est-ce que tu te poses ces questions ou pas du tout? Moi, parfois, je parle à certains chrétiens, je leur pose ces questions, ils ne se posent pas de questions. Ouais, je sais pas. Moi, ouais, tu sais, je suis comme ça. Et l'année d'après, tu leur poses des questions, je sais pas. En fait, il ne change jamais. Mais la Bible nous invite et t'invite à être imitateur de Christ. Alors, on n'est pas encore des petits, on est des petits Christ, mais on n'est pas encore des grands Christ. Hein. Alors, notre temps est paradoxal. C'est compliqué parce que Jésus est venu, il est déjà venu, il est déjà mort pour toi, il a déjà donné sa vie, il a déjà ouvert les écluses des cieux, mais en même temps, le royaume de Dieu sur terre est pas encore là. Et pas encore visible totalement. Jésus a donné sa vie, mais il n'est pas encore revenu. C'est déjà, mais pas encore. On goûte à certaines choses, mais pas encore à la totalité. Le règne de Dieu est déjà là, parce que toi et moi, on a accepté Jésus comme Seigneur, donc son règne dans notre vie, à nous personnellement, il se passe déjà quelque chose. mais il n'est pas encore totalement révélé à tous les hommes. Par la foi en Jésus-Christ, je suis déjà sauvé, mais pas encore libéré de ma chair. Donc il y a un déjà, mais pas encore. Alors, est-ce que tu vis dans le déjà ou est-ce que tu vis dans le pas encore? Il y a des chrétiens qui sont que dans le pas encore. Seigneur, ton règne, tu reviendras et machin et ceci. Ils sont toujours dans l'avenir. Mais ils ne vivent pas dans le déjà. C'est-à-dire que les réalités de leur déjà, ils ne les vivent pas avec Christ. Ils sont déjà partis plus loin. Mais Dieu t'invite à vivre dans le déjà. Le pas encore, c'est ton espérance. Le pas encore, c'est la conviction. Tu sais que Dieu va accomplir les choses, mais ce n'est pas encore le temps. Alors, qu'est-ce que tu peux faire dans le déjà? Est-ce que tu es actif dans le déjà? 2 Corinthiens 5, versets 1 à 10, assez long. La Bible nous parle de tout ça. Hein. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite de la main d'homme. Point. On relit celui-là. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de construire pour toi, lui. Waouh ! Quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui t'est déjà accordé. C'est incroyable d'être enfant de Dieu. Seigneur, parfois tu es dans la difficulté, tu vois, comme l'église primitive. C'est difficile dans ta vie. Mais il y en a un qui œuvre pour toi là-haut et qui prépare quelque chose pour toi. Il est dans le pas encore. Dieu est en train d'œuvrer dans le pas encore. Toi, tu es encore dans le déjà. Une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Oh, ça m'intéresse ça. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Est-ce que tu gémis dans ton corps comme il gémissait de te dire « Waouh Seigneur, tu es en train de préparer une fête, je veux être à cette fête et j'attends que ça. » Ou alors tu es dans le déjà là, en train de régler tous tes problèmes et tu ne te préoccupes pas trop de la fête. Il ne faut pas trop s'en préoccuper, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est une espérance. Dire « Seigneur, waouh, peu importe ce que je vais subir ici, là-haut, il y a quelque chose, ça va me remonter. Ça va me remonter. » Puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Oh, Jésus est venu pour donner la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de quoi ? Le gage de l'esprit. Dans le déjà, tu vis avec l'esprit. Dans le déjà, tu marches par l'esprit. Dans le déjà, tu es accompagné de l'esprit. Dans le déjà, il est en toi, sur toi, avec toi. Et puis, dans tout ce qui est plus tard, tu seras dans la gloire de Dieu. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Où en est ta jauge de confiance? Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons que nous habitons dans son corps. Nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Il est déjà venu, mais il n'est pas encore revenu. Et pour le moment, tu es loin du Seigneur. Mais tu es rempli de son esprit. Waouh! C'est paradoxal. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Est-ce que tu t'es efforcé l'année 2022 d'être agréable à Jésus? À moi, pas tous les jours. Il faut être honnête. Est-ce que vous avez été agréable tous les jours à Jésus? Est-ce qu'il y en a un parfait ici? Je sais qu'on est des saints, Hein, mais... Non. Pourtant, les saints, ils sont parfaits. C'est pas possible, ça. Car nous marchions, non pas par la foi, par la vie. Oui, nous sommes pleins de confiance, j'ai lu, de lui être agréable. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Waouh! Alors là, il y a une notion de productivité. Quand tu es dans ton corps, un jour, tu vas revenir là-haut, tu vas comparaître, et ce sera, c'est un tribunal. C'est pas un procès, d'accord? C'est, enfin, comment dire, c'est, j'ai perdu le mot, mais le tribunal de Christ, c'est, il va donner ta récompense. Tu vois, il prépare une œuvre pour toi, mais il va quand même regarder ce que tu as fait de bien et de mal. Il est le seul juge et il va regarder ta vie. C'est pas l'église, c'est pas Antoine. Ce n'est pas les chrétiens autour de toi qui vont juger tes œuvres, mais c'est Dieu lui-même. Et un jour, eh bien, tout ce que tu auras fait ici-bas, eh bien, Dieu va le passer devant ses yeux et il va faire le point avec toi. Alors, on a quand même une grande responsabilité. Dans le déjà, on a des choses à faire. Souvent, on dit qu'il ne faut pas être... oui, dans le faire, on dit qu'on est des... activistes, on ne doit pas être des activistes. Mais bon, moi, quand je lis ça, oui, on ne doit peut-être pas être des activistes, mais Dieu attend des choses de moi. Dieu attend des choses de toi. Oui, il attend que tu sois actif. Quel a été le degré de ton activité en 2022? La Bible nous enseigne que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Alors, on peut se poser cette question de se dire, voilà, on clôture cette année, les hommes, on a tous besoin de moments où on s'arrête, et une fin d'année, finalement, le temps coule inlassablement, demain, il n'y aura rien qui aura changé, finalement, le temps va continuer de couler, voilà, c'est tout. Mais on marque les choses, et ça nous permet de se dire, voilà, en 12 mois, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Qu'est-ce que Dieu a pu accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai laissé? Est-ce que j'ai laissé l'opportunité à Dieu de faire quelque chose de plus dans ma vie? Est-ce que j'ai travaillé avec lui? Et alors, finalement, il n'y a rien qui va changer. Et ce qu'on peut se dire, c'est voilà, la Bible nous dit aussi que le passé est passé. On ne va rien changer de ce qui s'est passé l'année passée. Et on peut juste dire, voilà, dans telle situation, j'ai pris telle décision. Cette décision a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et je vais finalement peut-être encore subir ou apprécier ce que j'ai pu produire en 2022. Ça va continuer. Mais si tu fais le point sur ta vie et que tu considères qu'il y a eu certaines décisions qui t'ont causé du tort, qui n'ont pas été bonnes ou tu n'as pas été agréable à Dieu, ou il y a eu des conséquences néfastes pour ta vie, c'est le moment aujourd'hui de dire ça suffit. C'est le moment quand même aujourd'hui de dire maintenant stop, je m'arrête, je considère que ce n'est pas correct. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon, je veux prendre un nouveau chemin avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu va forcément enlever les conséquences, mais ton état de cœur sera changé. Et maintenant, tu vas avoir un terrain sur lequel Dieu va pouvoir construire. De la même manière, il y a des choses que tu as pu semer en 2022, tu vas récolter des bons fruits. Parce que tu as été à l'image de Christ, tu as été agréable à Dieu, tu as fait des choses, tu ne sais même pas pourquoi, mais le Saint-Esprit t'a poussé à les faire, et à un moment donné, une année, deux années, trois années, quatre années vont passer. Tu avais une conviction, tu ne sais pas pourquoi tu as fait ces choses. Et à un moment donné, tu vas te retourner. Ah, maintenant je comprends, Seigneur. Il y a eu tel fruit, tel fruit, tel fruit, tel fruit, tel fruit. Sauf que ça demande beaucoup de foi, parce que nous, on est des bons Français. On aime bien savoir ce dans quoi on investit. Sauf qu'on l'a lu plus haut. On n'avance pas par la vue, mais par la foi. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être animé par l'Esprit, parce qu'il va te faire faire des choses, il va t'accompagner dans des domaines où peut-être tu ne pensais pas être capable, mais tu vas produire quelque chose, tu ne sauras pas pourquoi tu fais ces choses-là, mais Dieu a un plan prévu pour toi, et il y aura un bon fruit. Mais ta responsabilité aussi, c'est de te dire, où est-ce que je suis passé à côté? Parce qu'il y a eu de mauvaises œuvres dans ma vie, des choses peut-être futiles, des choses qui... n'ont pas de... comment on dit quand ça pousse pas le mot... stérile. Il y a peut-être eu des œuvres stériles dans ta vie. Et là, c'est la question de se dire, voilà, Jésus, bah, soit je m'en fiche, l'année continue, l'année prochaine, et puis l'année prochaine, je vais dire, oh, j'ai rien changé. Ou alors, je vais me dire, Seigneur, voilà, j'ai fait le point. Moi, j'aime bien faire le point. Et ça, j'aimerais m'améliorer. Ça, j'aimerais me rapprocher de toi. Ça, j'aimerais, voilà, il y a vraiment eu du bon fruit. Seigneur, conduis-moi plus loin. Seigneur, tu as commencé à travailler quelque chose en moi. Je ne comprends pas encore tout, mais je veux aller plus loin avec toi. Montre-moi, ouvre les portes. Et ça, c'est la même chose en tant qu'Église. On veut aller plus loin dans certains domaines. Il y a certaines choses qu'on a fait, voilà, c'était pas top. Il y a certaines choses qu'on a fait, Dieu va nous pousser à aller plus loin. Mais il faut dire, Seigneur, voilà, est-ce que mon cœur, eh bien, est disposé? Alors, je vais conclure avec des phrases sorties un petit peu, voilà, c'est juste quelques phrases sorties du livre de l'Apocalypse. Et elles sont adressées aux sept églises. La première est Éphèse. Parce que la vie est un combat, il n'y a rien de facile, mais l'Esprit de Dieu t'accompagne. Et on va parler de victoire. On veut se projeter vers notre victoire de 2023 et dire, Seigneur, il y aura des combats, il y aura des moments de bénédiction, il y aura ta faveur, il y aura peut-être des déserts, mais quoi qu'il arrive, c'est toi qui ferais le chemin. Mais en 2023, je veux voir des victoires dans ma vie. Je veux voir des victoires dans ma famille. Je veux avoir des victoires dans mon église locale. Je veux avoir des victoires au travail. Je veux avoir des victoires sur la maladie. Je veux avoir des victoires dans tel et tel domaine. Mais à un moment donné, il faut espérer quelque chose. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'espères rien pour 2023, ta foi est religieuse. Elle est dans un cadre. C'est habituel. Je viens au culte. Je fais mes petits trucs, mes petits rites. Mais si à un moment donné, tu écoutes l'esprit en toi et qu'il y a des choses qui grandissent et tu commences à espérer en certaines choses, bah, mets ta foi en action, Dieu va accomplir des merveilles. Parce que la vie que Dieu a donnée, elle est vivifiante. Si tu es sec, c'est que ce n'est pas Jésus. La vie n'a de valeur que si elle est partagée. Jésus t'a donné sa vie et elle a beaucoup de valeur. Tu as partagé la vie éternelle. Alors je conclue avec ces sept paroles à Éphèse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on est tellement attachés à nos habitudes, notre matériel, qu'on n'arrive même plus à se projeter vers le paradis. Parce que moi, quand je lis ça, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. J'ai l'impression que ça ne nous intéresse pas beaucoup. Moi, j'ai envie de manger dans le paradis, moi. J'ai envie de manger de l'arbre de vie. À Smyrne, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Si tu vins, tu n'auras pas à souffrir de la mort éternelle. C'est quand même, pour notre espérance, ça nous encourage quand même un petit peu. Je te sens pas encouragé là. Moi, je suis encouragé quand j'ai lu ça. À Pergame, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Oh là là, tu vas avoir un nom nouveau, il n'y a que toi qui vas pouvoir le lire, ça va être incroyable de ta relation là avec Dieu. Tu vas avoir un petit caillou blanc là, et tu vas lire ça, il va se passer quelque chose, c'est incroyable, une nouvelle identité, une identité t'est promise. Oh Jésus, Jésus. À celui qui vaincra et à qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, ceux qui nous ont écrasés, ceux qui ont crié qu'on était des fous, qui ont tué mes frères, mes sœurs dans le monde entier. Un jour, Seigneur, tu feras justice. Celui qui vaincra sera aussi revêtu d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom dans le livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Moi, j'ai envie que mon nom soit confessé devant le Père et devant les anges. C'est un beau programme, ça. À Philadelphie, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau. Est-ce que tu veux être une colonne dans le temple de Dieu ou être dans la périphérie? C'est ton choix, hein, la périphérie. Parce que vous savez, à nouveau, hein, les chrétiens doivent vivre à contre-courant. Vous voyez, Or et Joanne, ils sont partis à la périphérie. Ils sont partis à la périphérie de l'île. C'est bien, c'est la mode actuellement. C'est comme ça, c'est difficile d'acheter à Lille maintenant. Mais dans le royaume de Dieu, Joanne, lui, il veut pas la périphérie. Hein. Parce que Joanne, sur cette terre, son corps aime bien la tranquillité. Mais son nouveau corps et son nouveau nom, il va faire la fête toute la journée. Tu te rends compte, tu ne seras plus le même, Joanne. Ah oh là là, il voudrait être de tous les banquets. Et il apprend dans la famine au sec, parce que chaque anniversaire, c'est un banquet. Donc c'est bien. À l'Odyssée, celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Tu seras assis sur le trône de Christ. Est-ce que ça t'intéresse? Alors moi, quand j'entends tous ceux qui disent que, 2022, on a des regrets, les regrets, ils m'intéressent pas. Quand j'entends que tout va mal dans notre monde, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, Seigneur, comment je vais pouvoir œuvrer en 2023, vraiment pour être ton imitateur, pour pas être faire la tête d'autruche, hein. On ne veut pas être des chrétiens qui ne voient pas ce qui se passe, mais dire, Saint-Esprit, fais ce que fait ton œuvre en moi. Parce que voilà, j'ai quelque chose à vivre avec toi, il y a une espérance. Et il faut que je puisse partager cette espérance que moi j'ai à mon collègue, à ceux qui m'entourent, à ceux qui sont happés par la dépression, à ceux qui ne voient plus le bout du tunnel, qui subissent. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi tout simplement davantage en 2023. Je ne veux pas avoir de regrets, mais je veux prendre conscience des choses où je peux faire mieux pour 2023. Et je veux dire stop, cette chose-là, de côté, je change de direction. Là où ça a fonctionné, où Dieu t'a parlé, tu y vas à fond, tu continues. Seigneur, je veux espérer en des choses nouvelles, pour cette future année, pour l'Église.